艺术病了。我这on va reprendre notre cours sur les Romains. Écoute, on le fera après le thé parce que la bouilloire va faire trop de bruit.
Ah, ok.
On le fera après.
Excuse-moi.
Ouais. Romains, chapitre 1. Romains chapitre 1, nous étions arrivés au verset 23, mais on va reprendre au verset 18. Vous vous rappelez que l'épître aux Romains, c'est une présentation de l'évangile, une présentation approfondie. Paul n'avait pas encore été à Rome, et il voulait s'assurer que les Romains, enfin les chrétiens à Rome, aient le bon enseignement. Parce qu'il y avait, à l'époque, toutes sortes d'influences et toutes sortes de versions possibles de l'Évangile. Il y en a encore aussi aujourd'hui pas mal. Mais disons qu'à l'époque, on n'avait pas les écrits du Nouveau Testament et on avait besoin de ce travail de fond qui a été fait par les apôtres, qui doit être refait dans chaque génération, dans le sens de les réétudier et d'être sûr de ce en quoi on a cru. Par exemple, Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, pour vous montrer à quel point il y avait une sorte de bataille par rapport à la doctrine. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Vous voyez comment. En tout cas, à l'époque de Paul, c'était une bataille d'être sûr d'annoncer le bon message et de le retenir dans les termes où les apôtres, Paul et les autres apôtres avec lui, annonçaient l'évangile. Quand il est dit que vous le reteniez dans les termes où je vous l'ai annoncé, ce n'était pas dans le sens d'un mot à mot récité, dans ce sens-là, si vous voulez, mais ça voulait dire qu'il faut être sûr que l'évangile que vous avez reçu, c'est bien le bon évangile. Par exemple, dans 1 Corinthiens 15, il parle de la résurrection des morts. Vous voyez ? Et il y avait une controverse sur la question de la résurrection qui existait déjà entre les Sadducéens et les Pharisiens. Et Paul dit, s'il n'y a pas la résurrection, l'évangile s'écroule. Et on pourrait dire pareil dans Romains chapitre 1, s'il n'y a pas la création, s'il n'y a pas le jugement de Dieu et la colère de Dieu, l'évangile s'écroule de la même manière. Pourquoi est-ce que l'évangile s'écroule? C'est parce qu'il n'y a pas de raison d'être sauvé s'il n'y a pas de péché. Et il n'y a pas de péché s'il n'y a pas le jugement de Dieu sur notre vie. Et, si vous voulez, il y a un péché dans la mesure où il y a une faute, et il y a une faute dans la mesure où il y avait quelque chose au départ qui était vrai, qui était juste. Et puis ensuite, ça a été tordu. Hein ? Si vous avez un clou qui est tordu, si vous voulez savoir, et vous essayez de le redresser, si vous voulez vraiment savoir s'il est redressé, vous le mettez à côté d'un clou qui est neuf. Et tout de suite, vous voyez la différence. Vous n'arriverez jamais à redresser un clou parfaitement comme un clou qui était neuf. Vous avez remarqué ça ? Mais c'est que à côté du clou neuf que vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Et on ne peut pas se rendre compte qu'il y a du péché tant qu'on n'a pas une révélation de Dieu. Et je relisais hier un commentaire d'un ami sur Genèse 12, verset 7, quand il est dit que Abraham a construit un autel au Dieu qui lui était apparu. Ça veut dire que Abraham, en construisant cet autel, donnait sa vie à Dieu, et on le reverra dans Romains chapitre 12, verset 1, mais ça veut dire que Abraham avait donner sa vie sur l'autel. En construisant l'autel, ça voulait dire « Je te donne ma vie, je vis pour toi, Seigneur. » Pourquoi ? Parce qu'il avait une révélation de Dieu. Sans cette révélation de la gloire de Dieu et de sa présence, Personne ne va naturellement se dire, tiens, je vais donner ma vie à Dieu, je vais faire tous les sacrifices du monde pour Dieu, si je ne connais pas ce Dieu. Vous voyez ? Et personne ne va avoir envie de se repentir de ses péchés tant qu'il n'a pas vu la sainteté de Dieu, tant qu'il n'a pas la crainte de Dieu qui lui a été révélée. Si vous prenez Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 6, il dit qu'il a une vision de Dieu sur son trône. Et puis ensuite il dit, « Malheur à moi, car mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées, et je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Donc ça voulait dire que au moment où Ésaïe a cette vision, il se rend compte à ce moment-là qu'il est pécheur. D'accord ? Mais avant, il ne s'en rendait pas compte. Pourquoi ? Parce que avant, on se compare aux autres et on se dit « je ne suis pas pire que les autres ». Avant, on se dit « je suis dans les convenances sociales ». Et toutes les personnes qui sont dans les convenances sociales ont de la peine à avoir une conviction de péché en dehors d'une révélation, parce qu'elles sont dans les convenances sociales. C'est pour ça que Jésus dit aux pharisiens, les prostituées, les péagers vous devanceront dans le royaume des cieux. Pourquoi ? Parce que eux, comme ils ne sont pas dans les convenances sociales, ils n'ont pas de peine à être convaincus de péché. Parce qu'ils le savent déjà. Vous comprenez ? Tandis que nous, qui sommes dans les convenances sociales, enfin je dis nous, dans la mesure où vous en faites partie, parce que peut-être vous faites partie de ceux qui ont complètement traversé la ligne jaune, et vous savez ce que ça veut dire que d'être rejeté, etc. Mais, et d'être en dehors des convenances. Mais pour la plupart d'entre nous, ou de ceux qui écoutent cette vidéo maintenant, vous dites, oui, moi aussi, si je me compare aux autres, je ne suis pas pire que les autres, je suis même un petit peu meilleur. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on pense sans le dire, mais... Ou les gens vous disent, moi j'ai beaucoup de défauts, mais en tout cas, je n'ai pas celui-là. Et puis, ils vous citent un défaut quelconque. D'accord ? Comme pour dire, parce que je n'ai pas tel ou tel défaut, voilà, je suis quelqu'un de bien. Mais la Bible, enfin, Jacques nous dit que si tu transgresses un seul commandement, tu as transgressé tout le commandement. Donc tout ça pour dire quoi ? Qu'on a besoin d'une révélation de Dieu. Et cette révélation, elle commence dans Romains, verset 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. » Et donc là, il parle ensuite de la création, on l'a vu. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. En d'autres termes, on avait dit aussi la dernière fois, la racine du péché, c'est le manque de reconnaissance. Et c'est le fait de ne pas reconnaître Dieu pour qui il est, et de ne pas lui rendre l'honneur qui lui est dû. Vous voyez ? La louange, l'adoration, c'est la base de la vie chrétienne. Et on manque souvent, j'ai remarqué, dans notre culture francophone, on n'est pas nécessairement bon pour la louange, l'adoration ou la reconnaissance. On est bon pour râler, pour se plaindre. Ok ? Et ça, c'est pas, comment dire, juste une question de tempérament, c'est pas juste une question culturelle, c'est une question spirituelle. Parce que la Bible dit, ils sont inexcusables puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils ne lui ont pas rendu grâce, ils ne l'ont pas remercié. On doit réapprendre à remercier Dieu pour toute chose. D'ailleurs, quand vous vous êtes approché du Seigneur la première fois, la première chose souvent qu'on vit à ce moment-là, c'est qu'on a envie de remercier Dieu. D'accord ? Il y a une reconnaissance profonde. Je me rappelle, on avait un coiffeur quand j'étais enfant. Donc on allait chez le coiffeur avec ma mère qui nous accompagnait, mon frère et moi. Et puis... un coiffeur très sympathique, mais il n'était pas du tout chrétien. Et puis ma mère, petit à petit, l'évangélisait, lui parlait du Seigneur. Et un jour, cet homme est venu à l'église et s'est converti. Et ce qui nous avait frappé, c'était sa reconnaissance. Enfin, moi, c'est ce qui m'avait frappé. Il était tellement reconnaissant d'avoir rencontré le Seigneur, de connaître le salut. On était à Terre-Noire, près de Saint-Étienne, quelque part au milieu de la France, dans la Loire. Et là-bas, il n'y a pas beaucoup l'évangile. Hein. Au kilomètre carré, il n'y avait pas beaucoup de chrétiens. Donc, quelqu'un qui découvrait l'évangile, quelle reconnaissance il avait cet homme ? Donc, ça, c'est une marque de la vie en Christ. C'est la reconnaissance. Et la plainte, le fait de râler, de se plaindre, les murmures, c'est une marque de la vieille nature. Et après, il est dit, se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Alors ça, on en témoigne tous les jours. Hein. Il suffit d'aller à l'école publique pour voir cet aveuglement. C'est-à-dire que quand on met de côté la création, quand on met de côté Dieu, tout simplement, et la souveraineté de Dieu sur sa création et sur nos vies, et qu'on centre tout sur l'homme, c'est au fond ça l'humanisme, hein, c'est de tout recentrer sur l'homme et de perdre de vue Dieu. Quand on rentre dans cet esprit humaniste qui est très fort dans notre pays, eh bien, on se croit sage tout en étant devenu fou. Mais vous pouvez avoir une suite de raisonnement qui est très très logique, vous pouvez aller très loin dans le raisonnement, vous pouvez écrire des livres très compliqués, très, très érudits sur des tas de sujets, tout en étant dans l'erreur complète, parce que les prémices de votre raisonnement sont fausses. Vous voyez ? Ils ont remplacé, verset 23, la gloire du Dieu incorruptible par des images. Et puis ensuite, ils parlent d'animaux, etc. Donc c'était les idoles donc, qui étaient adorées, souvent des sortes de demi-dieux qui étaient à la fois animal et humain, sous forme de statues. Les images. Vous savez qu'on vit dans une époque où l'image a une importance. La preuve, c'est qu'on fait du Facebook Live. L'image a une importance énorme. Et Dieu a décidé de se révéler par la parole et non pas par l'image. D'accord ? Mais cette parole qui est dans l'Ancien Testament, qui était donné par les prophètes, n'a pas suffi. Et finalement, Dieu, parce que l'Israël s'est détourné pour aller vers les idoles, parce que les idoles, on pouvait les voir, on pouvait les sentir. On va lire, par exemple, dans Exode. Oui, c'est ici. Exode. Tu as fermé la porte... séparation vitrée. Ouais, non, mais c'est bon. C'est bon, les femmes. C'est bon. Exode 30, je crois, ou quelque chose comme ça. 32. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit: lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. C'est-à-dire, on veut un dieu qu'on peut toucher, qu'on peut voir, qui soit concret, qui soit palpable. On ne veut pas juste un dieu invisible. Hein ? Et donc, il y a cette tendance idolâtre chez l'homme. Et vous savez que le veau d'or, c'était la catastrophe. Hein. Et le premier commandement, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et ensuite, le commentaire, « Tu ne te feras pas d'image. » Ok ? Et aujourd'hui, tout passe par l'image. C'est pas nécessairement un péché de regarder une image ou une photo. Sinon, vous auriez plus aucun média dans ce sens-là. Mais le fait de faire confiance à l'image plus qu'à la vérité de Dieu, c'est là qu'il y a le problème. Hein ? Donc, il est dit ici, ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images. Okay ? La seule image que Dieu nous a donné, c'est lui-même quand il est venu sous forme humaine, c'est son fils Jésus-Christ. Et lui, il est appelé l'image du Dieu invisible en Colossiens. D'accord ? Il est l'image du Dieu invisible. Mais cette image, Jésus, elle était vivante, d'une part, et puis c'était vraiment l'incarnation, c'était Dieu fait homme. Et c'est le seul qui représente parfaitement Dieu sur la terre. Tout le reste, c'est des images qui sont en deçà de la gloire de Dieu. C'est pour ça que Jean dit dans Jean chapitre 1, « Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Vous voyez ? Parce que lui, il est l'image parfaite de Dieu, et la seule image qu'on peut adorer, c'est Jésus-Christ. Vous voyez ? Toutes les autres images ne représentent pas vraiment la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il dit ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible. Vous avez aussi le contraste entre ce qui est incorruptible et ce qui est corruptible. Ce qui est corruptible, c'est quelque chose qui va mourir, qui va pourrir. Ce qui est incorruptible ne meurt pas. Amen. Et souvent, vous avez ce contraste. Par exemple, dans la première épître de Pierre, chapitre 1, il est dit que nous avons dans le ciel un héritage qui ne peut pas se corrompre, qui ne peut pas rouiller, qui ne peut pas vieillir. Okay ? Paul dit dans 1 Corinthiens 15, donc qu'on citait tout à l'heure au début, il dit que, on va le lire 1 Corinthiens 15, à la fin d'1 Corinthiens 15. Verset 50, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Et qu'est-ce qui mène à la mort ? C'est le péché. C'est quoi la corruption ? C'est tout ce qui est du péché. Alors il y a la corruption, vous pensez beaucoup corruption à la corruption financière dans certains pays, y compris le nôtre, d'accord ? Mais il y a ça, c'est, donc quand on parle de corruption, il y a ce sens-là du mot. Mais dans la Bible, le mot corruption, ce n'est pas seulement sur le plan des finances, même si ça l'inclut, mais c'est tout ce qui est du péché, tout ce qui mène à la mort. Tout ça, c'est corruptible. C'est corrompu, c'est corruptible, ça va vers la mort. Le seul qui n'est pas corruptible, c'est Dieu. D'accord ? Pendant la Révolution française, on dit Robespierre était appelé l'incorruptible. Le problème, c'est qu'ils se sont tous entretués de toute façon. Mais Dieu, lui, sa gloire et sa nature est incorruptible. Donc il ne meurt pas, il est pur, il est sans péché, il est lumière. Amen. L'importance de ça, c'est de savoir que, en termes d'idolâtrie, on s'attache à des choses terrestres et on oublie que ces choses vont mourir. Vous voyez ? Elles vont mourir. Ou elles vont disparaître. Quand Jésus parle des finances, pour revenir aux finances, il dit, n'investissez pas dans des choses qui vont rouiller, qui vont périr. Investissez dans le ciel, où là, votre trésor, il ne pourra ni se corrompre, ni se... Vous voyez ? Etc. Et donc, c'est important d'investir pour ce qui ne peut pas mourir. Alléluia. C'est pourquoi Dieu les a livrés, verset 24, à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Dans le verset 25, on reviendra sur le verset 24 par rapport à l'impureté dans leur propre corps, mais parce qu'il va le repréciser après. Mais au verset 25, il reprend ce qu'il a dit entre les versets 18 et 23. Et il le résume de trois manières. Premièrement, l'abandon de la vérité. Deuxièmement, servir la créature au lieu du créateur. Et troisièmement, non, c'est ces deux choses. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit troisièmement. Deux. Un, remplacer la vérité par le mensonge, l'abandon de la vérité. Et j'irai deuxièmement, l'abandon du Créateur pour la créature. Hein ? Voilà. C'est comme ça qu'il résume toute la situation. Donc, en ce qui concerne la vérité, on en a parlé quand il est dit qu'ils ont retenu injustement la vérité captive au verset 18. Parce qu'ils connaissaient la vérité, au verset 18, d'accord ? La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Dans Romains 1, 18. Ok, donc les hommes connaissaient la vérité, mais ils ont volontairement refusé de la voir, refusé de la reconnaître comme telle, refusé la vérité de Dieu. Hein ? Vous prenez deux personnes qui regardent un coucher de soleil. Vous prenez la première personne, c'est un chrétien. La deuxième personne, c'est un biologiste qui croit à la... Bon, les biologistes peuvent être chrétiens, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui a fait de la biologie et qui croit fermement à la théorie de l'évolution. Et puis, enfin, entre le Big Bang et aujourd'hui, tout est arrivé par hasard, on va dire. Donc, le premier voit la gloire de Dieu dans le coucher de soleil, une empreinte du Créateur dans sa création, un signe de la grandeur de Dieu et de sa beauté. Il ne confond pas le soleil avec Dieu, évidemment, je ne parle pas de panthéisme. Dieu est en dehors de sa création, il fait pas part, il est pas, la création n'est pas Dieu. Ne vous méprenez pas là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il voit l'empreinte du Créateur comme le sceau. Vous savez, il y a un texte dans Job qui dit que sur l'homme, il y a le sceau de Dieu. C'est-à-dire qu'il y en a qui pensent qu'il parle de l'empreinte digitale, mais il y a comme... Et chaque empreinte digitale est unique, vous savez ça. Et donc c'est comme s'il y a un sceau du Créateur sur sa créature. Bon. Mais il voit ce sceau, il voit cette gloire de Dieu, cette empreinte du Créateur. Maintenant, à côté, la personne qui est athée, qui ne croit pas en Dieu, eh bien, il va peut-être penser, il va peut-être trouver que c'est beau, mais il va se dire, je trouve que c'est beau parce qu'on m'a appris que c'est beau, c'est culturellement beau, mais en fait, c'est pas beau. C'est simplement des gaz, des nuages, enfin, la lumière, la réverbération, la surface courbe de la Terre, et je ne sais quelle autre. Il y a toutes sortes d'explications physiques. Vous pouvez expliquer un coucher de soleil avec toutes ces belles couleurs, de manière, avec des formules mathématiques, en quelque sorte, même si ce n'est pas la formule de chaque coucher de soleil, en parenthèse, parce qu'il y a quelque chose dans l'infinie variété de la sagesse de Dieu que personne ne peut reproduire. Mais en termes d'explications, on peut donner des explications, vous voyez ? Et donc on analyse tout, et finalement on voit la même chose, mais avec un regard différent. Vous suivez ? Donc, quelque part au fond de nous-mêmes, on sait que c'est Dieu, mais on a tout l'appareil de l'érudition d'aujourd'hui pour dire, eh bien non, c'est pas Dieu, c'est l'évolution, etc., etc. Donc quelque part, il y a un choix, si vous voulez, on choisit de mettre Dieu en dehors de l'équation. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, donc ceux qui construisent leur compréhension du monde, ils la construisent sans Jésus, l'image du Dieu invisible, ils la construisent sans Dieu, et ils pensent pouvoir construire comme ça. Et finalement, ça ne tient pas. Et donc finalement, cette pierre qui a été rejetée devient la principale de l'angle, et on réalise, comme Paul le dit dans Colossiens chapitre 1 en particulier, que Dieu est l'image, que Jésus est l'image du Dieu invisible et que en lui ont été créées toutes choses. Amen. Donc rejet de la vérité. Deuxièmement, rejet du Créateur. Et donc on va adorer la créature au lieu du Créateur. C'est pour ça qu'il y a le panthéisme. Il y a des gens. Le panthéisme, c'est croire que Dieu, c'est cette table, c'est cette pierre, c'est cet arbre, etc., etc. Le panthéisme, c'est un petit peu les gens qui embrassent les arbres, tu vois, en disant mon Dieu. Quand des gens lisent l'horoscope et se basent sur les étoiles pour connaître...
C'est un arbre sans plus autant dire que c'est Dieu.
Quand les gens embrassent, quand les gens se fient aux étoiles, pourquoi pas se fier au créateur des étoiles, okay ? Si vous fiez aux étoiles avec l'horoscope et tout ce bazar-là, vous êtes soumis à des puissances que Paul appelle... C'est un petit peu les éléments... du monde, vous voyez, mais c'est des puissances, c'est un ordre naturel dans lequel il y a des puissances, et on se soumet à ces choses alors qu'on a été créé, on est nous-mêmes créés à l'image de Dieu, on est censé être dépendant du Créateur, l'adorer, et finalement nous-mêmes, par Jésus-Christ, refléter la gloire incorruptible de ce Dieu Créateur. Amen. Ça c'est le but final de notre parcours dans l'Évangile. Mais là, on est au début du parcours, et on réalise que l'homme s'est égaré parce qu'il a adoré la créature au lieu du créateur, alors qu'il était lui-même créé à l'image de Dieu, et alors que c'est beaucoup plus, je dirais, intelligent de se fier au créateur des étoiles que de se fier aux étoiles. Ça paraît évident, hein. Et vous vous limitez avec ces choses énormément, alors qu'avec Dieu, vous enlevez toutes ces limites et vous pouvez atteindre le vrai potentiel que Dieu a pour vous, d'être vraiment image de Dieu, d'être vraiment refléter une part de sa gloire, je dirais, parce que c'est ensemble le corps de Christ qui reflète vraiment la gloire de Dieu, mais d'être un fils et une fille dans le royaume, ça c'est notre appel, mais on ne va jamais l'atteindre si on adore la créature. Vous voyez ? Parce que cette création-là a été soumise à la corruption, dit Paul dans Romains chapitre 8, et donc elle est en dehors du plan, elle a été mise hors jeu. Donc c'est à nous de retrouver le Créateur pour être conformes à son image et à ce qu'il veut pour notre vie. Et pour donc faire sauter ses limites et entrer dans le plein potentiel de ce que Dieu a pour nous. Bien. Verset 26, il reprend ce qu'il disait au verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature. De même, les hommes, abandonnant les relations naturelles avec la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils commettent l'infamie homme avec homme et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Dans la relation homme-femme, il y a un dépassement pour l'homme, il y a un dépassement de ce qu'il est en tant qu'homme qui est limité. Dieu nous a créés, je parle maintenant homme et femme, avec des limites. On est incomplet et on cherche à être complété parce qu'on a été créé pour adorer Dieu, pour rencontrer Dieu. Et dans la relation homme-femme, on dépasse notre nature homme ou notre nature femme pour la femme. Vous suivez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que il y a une différence, une altérité entre l'homme et la femme. Et donc, en allant vers l'autre, qui est différent de moi, je parle de la femme pour l'homme ou de l'homme pour la femme qui va vers l'homme, elle va vers quelqu'un qui est différent, ou il va vers quelqu'un qui est différent, et donc, c'est une aventure. Demandez aux gens qui sont mariés, ils vous diront « je ne comprends toujours pas ma femme », ou elle dira « je ne comprends toujours pas mon mari ». Vous voyez ? Parce qu'on est tellement différents l'un de l'autre. Mais Dieu a voulu cette relation-là, parce que lui-même est tellement différent de nous, et il nous a créés pour aller vers l'autre. Vous voyez ? Il nous a créés pour être des adorateurs, pour aller vers lui, pour nous dépasser. Et donc, lorsque on sert la créature, on adore la créature au lieu du créateur, eh bien, on perd de vue le sens du couple et du mariage. Et à ce moment-là, la preuve aujourd'hui, hein, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. On appelle mariage ce qui n'est pas mariage. C'est Paul le sous-entend ici, puisqu'il parle de homme avec homme et femme avec femme. Mais le vrai mariage, c'est aller vers celui qui est différent, celui ou celle qui est différent de moi. Parce que je reconnais que je suis incomplet et j'ai besoin de l'autre pour être complété. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et c'est pour ça que l'affaire du mariage homosexuel est une négation du plan de Dieu pour l'homme et la femme. Et lorsque l'être humain se replie sur lui-même et ne veut pas aller vers l'autre, le fait de se replier sur soi-même, en fait, c'est presque une définition du péché. Vous voyez ? On se replie sur soi. Alors que l'évangile, c'est aller vers l'autre, c'est être des adorateurs, c'est aimer. Vous comprenez ? Au vrai sens du terme. Vous me direz, oui, mais un homme peut aimer un homme, une femme peut aimer une femme, au sens général du terme, bien sûr. Simplement qu'au sens de la... En ce qui concerne la sexualité, qui est un acte profond de l'être humain, il est fait pour cette altérité et non pas pour l'homosexualité. Parce qu'on a été créé pour ça. D'accord ? Donc clairement ici, Paul dénonce ce qui concerne manière générale, l'homosexualité ou ces choses-là, comme une conséquence, c'est ça qui est intéressant, comme une conséquence d'une déviation plus profonde en amont, si vous voulez. C'est quoi la déviation plus profonde en amont ? C'est qu'on n'a pas reconnu comme Dieu, on a servi la créature au lieu du créateur, on a abandonné la vérité. Et quand on abandonne la vérité, quand on abandonne le créateur et puis qu'on sert la créature, eh bien on arrive dans ce système de l'homosexualité qui était très courant dans la culture grecque de l'époque de Paul. Paul annonce l'évangile à Rome, il l'annonce à Athènes, il l'annonce à Corinthe, où il y avait beaucoup d'homosexualité. C'était courant. Si vous lisez Plutarque, c'est un auteur qui, très ancien, qui décrit la vie de Sparte, d'Athènes, qui décrit la culture grecque, et qui a été une sorte de passeur de culture entre la Grèce et l'Occident, et qui a beaucoup influencé des gens comme Jean-Jacques Rousseau, ou bien les philosophes français. D'accord ? Plutarque a été très très influent, finalement, derrière la Révolution française, derrière tout ce qui a influencé le monde, là, depuis le XVIIIe siècle, en quelque sorte, et même avant, Plutarque a joué un rôle énorme. Alors lui, il a simplement décrit ce qu'il savait de la Grèce antique, vous voyez ? Mais il a transmis donc un savoir, il a transmis une culture. Et cette culture grecque, c'est un peu ce que dénonce ici Paul, dans Romains chapitre 1, vous voyez ? Il dénonce un égarement dans l'idolâtrie, et en fait, c'est comme s'il disait l'idolâtrie conduit à des pratiques comme l'homosexualité. L'homosexualité est une idolâtrie, finalement, vous voyez, parce qu'on adore une créature au lieu du créateur. Voilà. Par contre, quand Dieu a créé l'homme et la femme, c'est ensemble qu'il les a créés image de Dieu, ça voulait dire l'image de Dieu, elle se trouve dans cette altérité. Il faut aller vers l'autre, vous voyez, quelqu'un qui est différent.
Que Dieu est autant féminin que masculin.
Est-ce que Dieu est autant masculin que féminin ? C'est une question qu'on me pose ici. Alors, il faut faire attention quand on dit... Enfin, c'est sûr que Dieu, à certains moments, se compare à une mère dans l'Ancien Testament, qui prend un tendre soin de ses enfants, ou à une poule qui rassemble ses petits. Ou, enfin, il y a toutes sortes d'images de l'amour de Dieu qui englobe en tant que père... je veux dire, il a toutes ces caractéristiques-là, mais il n'est pas appelé mère, il est appelé père. Et donc, dire que Dieu est à la fois féminin et masculin, c'est inexact. Mais c'est vrai que dans la description que Dieu donne de lui-même dans la Bible en général, c'est clair qu'il est au-delà de l'homme et de la femme, et donc il doit contenir tout, il contient tout. Mais le fait qu'il s'appelle père, c'est pas pour rien, vous voyez. Mais j'entrerai pas plus loin dans cette affaire-là. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, Et puis, il nous a créé homme et femme pour refléter son image. Bien. On continue au verset 28. Comme ils n'ont pas jugé bon. Alors, Paul reprend de nouveau ce qu'il a dit entre les versets 18 et 23, d'accord ? Et il résume cette fois encore plus court. Au verset 25, il a dit, ils ont remplacé la vérité, ils ont remplacé le Créateur. Maintenant, il dit simplement, en bref, pour tout résumer, ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu. Voilà. Vous savez qu'il dit dans Osée 4, mon peuple périt par manque de connaissance. Vous voyez ? Bien sûr, ici, sous-entendu, c'est la connaissance de Dieu qui leur manque. Et aujourd'hui, même dans l'Église, est-ce qu'on prend vraiment le temps de chercher Dieu, de le connaître ? Est-ce qu'on est à la recherche d'une révélation plus grande de Dieu ? Vous voyez ? C'est important. Parce qu'en dehors de cette connaissance de Dieu, on tombe comme dans une sorte de... C'est comme si vous tombez dans un escalier et puis vous roulez, vous descendez. Hein. Parce que là, vous avez manqué la première marche, vous tombez dans l'escalier. Et la première marche, c'est connaître Dieu. Voilà. ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu. Et donc, cette connaissance de Dieu, qui nous est donnée par une rencontre avec Dieu, par une étude attentive de sa parole, par le fait de l'étudier ensemble qu'on fait ce matin, par la prière, c'est absolument fondamental. Moïse, il avait vu la mer Rouge s'ouvrir devant lui. Il est monté sur le Sinaï. Il a reçu les 10 commandements. Il est redescendu. Il a vu son peuple qui s'était corrompu. Il est remonté sur le Sinaï. Et quelle est sa prière ? Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais enfin, Moïse, est-ce qu'il n'avait pas suffisamment d'expérience de Dieu ? Est-ce qu'il n'avait pas suffisamment de connaissance de Dieu avec ce qu'il avait vécu comme miracle, voyez ? Et comme les 10 commandements, etc. Et il n'en a pas assez ? Est-ce que nous en avons assez ? Ou est-ce que c'est aussi notre prière ? Seigneur, j'aimerais mieux te connaître. J'aimerais avoir une plus grande révélation de toi. Dans Philippiens 3, Paul, qui avait aussi une grande révélation, Philippiens 3. Mon but, verset 10, est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Donc, mon but, en parlant de Jésus, est de le connaître. Paul, qui connaissait déjà le Seigneur, puisqu'il lui était apparu sur le chemin de Damas, il était déjà monté au ciel, d'après 2 Corinthiens 12 et 13. Donc, il avait déjà vu des choses extraordinaires, il avait une révélation, il dit aux Éphésiens, vous pouvez vous imaginer un petit peu la révélation que j'ai reçue, et que je vous donne en peu de mots, voyez. C'est comme si Paul ne dit pas tout, il retient un petit peu, parce qu'il dit, si je leur dis tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai compris, ils vont pas supporter, quoi, voyez. Et ce même Paul dit aux Philippiens, mon but est de le connaître, voyez. Donc, c'est pas juste une connaissance ponctuelle, un jour j'ai rencontré le Seigneur, maintenant ça me suffit, mais c'est pour l'éternité qu'on va encore apprendre sur Dieu. On n'aura jamais fini de le découvrir. Alléluia. Parce qu'il est tellement grand, tellement extraordinaire, et vous savez que les séraphins, dans Ésaïe 6, ils sont devant le trône de Dieu, ils se cachent les yeux, ils se cachent les pieds, ils se couvrent de leurs ailes à cause de la gloire de Dieu, et puis ils disent, d'éternité en éternité, ils disent « Saint, Saint, Saint » et le Seigneur l'Éternel des armées. Et chaque fois qu'ils regardent, de nouveau ils s'exclament « Qu'est-ce qu'il est saint, qu'est-ce qu'il est extraordinaire ?» Et puis ensuite ils doivent se cacher, et puis ils font ça, ils le faisaient du temps d'Ésaïe, ils continuent à le faire maintenant, et puis ça n'arrêtera jamais. Parce qu'ils n'arrêteront jamais de contempler et de s'extasier devant la grandeur de Dieu. Vous comprenez ?
Qu'est-ce qui fait qu'ils doivent se cacher ?
Ils se cachent parce que la gloire de Dieu est trop forte pour eux. Ils doivent se protéger. Mais si nous, on voit un ange comme Gabriel qui se tient devant Dieu, on risque de tomber par terre et de trembler comme des feuilles, parce qu'ils ont sur eux une part de cette gloire, puisqu'ils la contemplent tous les jours, 24 heures sur 24 dans le ciel. Et quand ils viennent nous parler, il y a cette gloire qui est encore sur eux. Vous savez, c'est comme si vous avez tous joué avec le feu, hein. On dit aux enfants qu'il ne faut pas jouer avec le feu, mais on aime bien le feu. Et donc, vous mettez un bout de bois dans le feu, et puis vous le faites un peu rougir, vous le sortez du feu, il est encore chaud. Hein. Vous voyez, c'est un peu pareil. Voilà. Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu. Ce qui est intéressant quand même, c'est que le mot théologie, c'est le mot qui veut dire connaissance de Dieu. C'est dommage que cette connaissance de Dieu ait été un peu beaucoup même détournée par les universités dans des choses qui sont finalement loin de la vraie connaissance de Dieu. Mais la vraie théologie, c'est de faire ce qu'on fait ce matin ensemble. C'est de chercher à connaître Dieu avec sa parole, simplement. Vous voyez ? Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance, et puis la connaissance de Dieu, c'est pas seulement dans l'étude, c'est dans le dialogue. Vous posez des questions à Dieu. Job est un grand théologien. Pourquoi ? Parce que pendant 37 ou 36 chapitres, il n'arrête pas de poser des questions à Dieu, de s'interroger, ses amis aussi. Il se pose toutes sortes de questions. Mais enfin, Seigneur, je ne comprends pas Dieu, pourquoi ces malheurs m'arrivent, pourtant j'ai marché dans la droiture, donc il y a quelque chose qui ne va pas, si seulement je pouvais le voir, si seulement je pouvais le rencontrer, je poserais telle ou telle question, et Job se bat avec Dieu. Et finalement Dieu se révèle à lui, dans la création, en bonne partie, et puis finalement Job, donc, à la fin de ce dialogue avec Dieu, Job se repent, et Job est restauré. Job est un théologien. Mais lui, il a fait de la théologie à travers la souffrance, à travers les questions qu'il a posées constamment à Dieu. Vous comprenez? Et Dieu, finalement, a répondu à ces questions. Et vous pouvez poser des questions à Dieu, Dieu va vous répondre. C'est vrai? D'accord? Seigneur, pourquoi? Vous trouverez des réponses dans sa parole, vous trouverez des réponses dans votre vie quotidienne, où Dieu vous mettra dans une situation où vous direz « Ah, donc c'est ça que j'avais demandé à Dieu. » Oui. Dieu les a livrés, donc comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée. Est-ce que tu pourras me dire quand il sera 10h moins... Il est quelle heure là?
Il est 5.
Ah, il est déjà 10h moins 5. Ok, donc on va bientôt s'arrêter. Dieu les a livrés, qu'est-ce que je disais, à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. Et va suivre toute une liste de péchés. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de perfidie, plein d'envie, de meurtre, de discorde, de fraude, de vice, rapporteurs, médisants, impies, emportés, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents. Tiens, rebelles à leurs parents. Intéressant, hein? Parce que c'est là que ça commence, c'est dans la famille. Sans intelligence, sans loyauté. Dieu a donné à nos parents, même quand ils ne sont pas chrétiens, une certaine sagesse. Parce qu'ils ont une génération de plus que nous. Et puis Dieu accorde aux êtres humains, malgré leur aveuglement, malgré le fait qu'ils parfois ils ne connaissent pas Dieu, il leur accorde une certaine grâce, on appelle ça la grâce commune, si vous voulez. On a tous une certaine dose de grâce qui nous permet de vivre un minimum de sagesse, ce qui fait qu'il y a des gens qui sont parfaitement païens, entre guillemets, et puis vous vous rendez compte qu'ils savent quand même se conduire dans une certaine mesure, dans certains domaines, vous voyez. Donc, rebelles à leurs parents, mais ça on en parlera au chapitre 2. Rebelles à leurs parents. Sans intelligence, sans loyauté, qu'est-ce qu'il faudrait dire là-dessus? Sans affection, sans pitié, et bien qu'ils connaissent le décret de Dieu selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. Alors ici, il est parlé de peine de mort, hein, c'est pas tout à fait à la mode. On reviendra au verset 32 tout à l'heure, mais juste quand vous lisez cette liste-là, il y aurait beaucoup de choses à dire, et ça vaut la peine de l'étudier tranquillement, et de réaliser qu'est-ce que Dieu condamne, voyez. Il y a dans ces choses qu'on a lues ici, des choses qui aujourd'hui sont considérées comme des bonnes choses, voyez. Ça me rappelle une prof qui nous disait « Je suis orgueilleuse et fière de l'être ». Ça, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, vous comprenez. Pour pouvoir dire ça, il faut ne pas connaître Dieu, hein. Sinon vous ne pouvez pas le dire. Médisant, fanfaron, orgueilleux, etc. On va reprendre tout ça tout à l'heure, mais on va essayer d'aborder quand même le chapitre 2, parce qu'il faut avancer. À tout de suite.